Nous en sommes donc à notre dernière rencontre, et c'est bien dommage, hein? Mais je crois que le Seigneur a voulu les choses ainsi, dans sa grâce, et puis j'annonçais également hier soir que ce soir serait la meilleure réunion. Pourquoi ? C'était simplement parce que la Bible dit que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et comme nous en arrivons à la fin, le Seigneur, dans sa grâce, se plaira de nous bénir abondamment. Nous lisons donc quelques textes introduisant ce grand sujet du retour de Christ, mais du retour en gloire. Nous avons parlé avant-hier soir de l'enlèvement, et nous avions précisé qu'il y a deux temps à un seul retour de Christ, pas deux retours, un seul, mais qui se fera en deux temps. Pour commencer par l'enlèvement des enfants de Dieu, puis ensuite par le retour de Christ en gloire avec son Église, avec ses saints. Nous allons lire, pour commencer, en Zacharie 12, quelques textes, les versets 2 et 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. » En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Bien entendu, en face de Goliath. Hein ? La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux en ce jour-là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Voilà un qui voudrait devenir évangéliste. C'est bien. Il aura en tout cas une récompense d'évangéliste. Et puis maintenant, nous lisons au verset 10e. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Nous poursuivons la lecture au chapitre 13. Et puis au verset 8e, à la fin du verset 7e même, « Je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront. Et l'autre tiers restera. » Ceci pour parler du reste d'Israël qui se convertira dans ce jour du retour de Christ. « Mais je mettrai ce tiers dans le feu. » Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Voilà donc les textes qui nous intéressent ce soir. Et tes dépouilles sont partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Ah, nous en aurions à lire des textes à propos du retour en gloire de Jésus-Christ. Nous disions donc avant-hier que le retour de Christ se fera en deux temps. En deux temps que sépareront cette année, la septième année, qui représente la 70e semaine dont a parlé le prophète Daniel en Daniel 9. Et nous n'aurons pas le temps de revenir sur ces choses, mais je vous crois informé de cet enseignement qui est dans les Saintes Écritures. C'est donc 7 ans après l'enlèvement de l'Église que se fera le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ avec les siens. Mais comme nous ne savons pas la date de l'enlèvement, je vous ai donné une date ? Oui, hein ? Qui s'en souvient ? Il revient quand ? En été, bravo ! Mais pas l'été 92, hein ? Ni 93, ni 94. Vous en avez qui ouvrent de grands yeux et qui doivent se poser la question, ce qui n'était pas avec nous avant-hier. Combien êtes-vous à n'avoir pas été avec nous avant-hier soir ? Levez la main, vous n'étiez pas avec nous ? Ah, je comprends que vous vous étonniez. En disant, quel est ce prophète, là ? Nous n'avons pas de date au calendrier des hommes. Mais nous en avons une au calendrier prophétique. Alors permettez que je rappelle ces choses, parce que sinon, je suis persuadé que vous êtes en train de nager. Hein. Littéralement, vous qui n'étiez pas avant-hier, où est-ce que vous étiez ? Vous auriez dû être là. Alors vous auriez pu comprendre ce que nous avons dit. Permettez que je rappelle cela, c'est important. Le Christ a dit ce qui suit en Luc 21-29. Lorsque vous verrez le figuier pousser des feuilles tendres, non seulement les figuiers, le figuier, mais tous les arbres. Ce que ne dit pas Matthieu. Matthieu, lui, se contente de parler du figuier parce que l'évangéliste Matthieu eut mission de ne s'adresser qu'aux Juifs, particulièrement. Tandis que Luc, lui, eut un horizon beaucoup plus large. Voilà pourquoi Matthieu a juste dit « Lorsque vous verrez le figuier pousser des feuilles tendres ». Et voilà pourquoi aussi Luc a dit « Lorsque vous verrez le figuier et tous les arbres pousser des feuilles tendres ». Vous dites quoi ? L'été est proche. Alors, rapidement dit, nous rappelions que 3 symboles pour désigner Israël sont enseignés dans les Saintes Écritures, le figuier, l'olivier et la vigne, notamment au livre d'Habacuc, chapitre 3 et au verset 17, si mes souvenirs sont bons. Hein. En tout cas, vous vérifierez cela. Le Christ avait donc parlé du figuier, il faisait mention d'Israël. Quand vous verrez donc Israël pousser des feuilles tendres, vous dites l'été est proche. Et nous disions que l'été n'a rien à faire avec le figuier. Nous nous en étions étonnés parce que pour qui connaît le figuier produit sa récolte à l'automne. Hein ? À l'automne, pas en été. Alors, À quoi le Christ a-t-il voulu faire allusion en évoquant l'été ? Pour le comprendre, il faut en venir au grec, qui est la langue du Nouveau Testament. J'en ai fait lors de mes études de théologie. Le grec nous dit ce qui suit. Le mot « été » dont a parlé Jésus se dit en grec « teros ». Mais il est un autre mot en grec qui a même racine avec le mot « été », avec le mot « teros » et le mot « terismos » qui signifie « moisson ». La moisson. Et pourquoi ? Parce que la moisson se fait en été. Et Jésus a dit, quand vous verrez le figuier ressuscité, Israël se retrouver sur la terre de ses ancêtres, en tant que peuple, en tant que nation, vous dites, la moisson est proche. L'été est proche. Été et moisson en grec ont même racine, parce que la moisson se fait en été. Si le Seigneur avait parlé d'Israël à propos du figuier, il n'aurait pas dit l'été. Il aurait dit, lorsque vous verrez le figuier pousser des feuilles tendres, vous dites l'automne est proche. S'il avait voulu parler d'Israël, l'automne est proche. Le figuier ne donne pas de fruits en été. Il donne ses fruits à l'automne. Je vous en parle par expérience, parce que quand j'étais enfant, nous allions à la cueillette des figues à l'automne. Hein, nous revenions avec des paniers remplis de figues. C'était extraordinaire. Nous allions très tôt le matin pour les manger encore toutes fraîches sur l'arbre. On s'y régalait. Alors, ça n'est pas à la conversion d'Israël à l'automne prophétique. Tout ceci représente une série d'images prophétiques dans le cadre d'une parabole prophétique qui nous vient du Seigneur. Il y a 7 paraboles du Christ à propos de son retour enseigné par lui-même, entre autres celle-ci. Alors, quand vous verrez le figuier, c'est une métaphore, c'est une parabole, c'est une illustration, un symbole. Quand vous verrez donc Israël rentrer chez lui, dites « la moisson est proche ». Or, la moisson n'est pas Israël. Hein. Israël, c'est la récolte des figues après l'été. La moisson, c'est l'Église qui s'en va. En été. Le bon grain, c'est l'Église, ça n'est pas Israël. Qu'est-ce que le Christ a voulu dire par là ? Quand vous verrez, c'est ce que nous voyons. C'est quand même prodigieux. Quand vous verrez Israël pousser des feuilles tendres, ressusciter, rentrer chez lui, etc. Alors attention, l'enlèvement est proche. Israël est un signe qui annonce le départ de l'Église, la moisson. Quand l'Église sera partie, alors commencera ce que la Bible appelle la grande tribulation. Elle se divise en 2 temps. 2-3 années et demie chacun. Les premières 3 années et demie, l'avènement de l'Antéchrist dans une période de séduction, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Et puis, en deuxième lieu, et c'est dans cette première partie, sûrement, qu'Israël reconstruira le temple. Puis ensuite, parce que, je vous l'ai dit hier, l'Antéchrist contractera des alliances avec pas mal de peuples, selon Daniel 9, mais aussi avec Israël. Mais dans là, à partir du milieu de cette semaine d'année, après 3 ans et demi, il rompra ses alliances, et en particulier avec Israël, et alors commencera, surtout pour Israël, mais pour le monde entier, vraiment une tribulation absolument épouvantable, qui conduira Israël à une persécution et à des temps excessivement difficiles. Et c'est dans cette deuxième partie de ces 7 ans qu'Israël passera par ce que la Bible appelle en Jérémie 30, verset 7, la tribulation de Jacob. Et c'est dans cette période aussi que les 2/3 du peuple d'Israël périront et qu'il ne restera plus qu'un tiers, hein, ce peuple devant passer par le feu. Et pourquoi cela ? Parce que nous le savons aujourd'hui, pour ceux qui vont en Israël, comme c'est mon cas, eh bien, ils savent que la majorité des Israéliens des citoyens, donc, hein, des juifs là-bas, est athée, hein, ne croit même pas en Dieu. Il va falloir purifier tout cela. Et ceci est tellement dommage. Au terme de ces 7 années, au moment où Israël sera au bout de sa course, n'en pouvant plus, entièrement brisé par l'Antéchrist, ses armées, hein, alors le Seigneur apparaîtra en gloire. Oui, une manifestation de sa gloire, quelque chose d'inouï. Et c'est à ce moment-là, justement, que Israël se convertira et que commencera sur la terre un règne de 1000 ans. Alors, maintenant, je vais développer dans le détail tout ce que nous venons de dire et d'affirmer. Le retour en gloire du Seigneur se déroulera 7 années après l'enlèvement de l'Église. Puis ensuite, après l'enlèvement de l'Église, donc, et au terme de ces 7 années, le retour en gloire, ce retour en gloire mettra un terme à ce que Jésus a appelé le temps des nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Quel est ce temps des nations? À quoi correspond-il? Souvent la question est posée. Le temps des nations représente cette période faite de siècles et qui a commencé avec la déportation de Juda et de Benjamin en Babylone. En d'autres termes, cette période avait commencé avec le fait que les nations avaient commencé de fouler aux pieds Jérusalem et le sol de la Palestine, Israël ayant perdu tout pouvoir politique en même temps que tout pouvoir religieux. Il faut savoir que le Seigneur avait eu des plans absolument remarquables pour Israël. Ceci, nous le lisons par exemple au livre du Deutéronome au chapitre 28. Le Seigneur avait eu des plans pour Israël, quelque chose de remarquable, et qui étaient les suivants. Verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel, n'est-ce pas, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, écoutez bien cela, hein, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Israël, je vous l'ai dit le premier soir à propos des signes des temps, nous les avons passés en revue les uns après les autres, et nous avons terminé avec ce signe entre tous les signes, Israël donc, hein. Il devait occuper la tête des nations, et il aurait dû posséder la supériorité sur toutes les nations. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Et ceci est repris, par exemple, au Deutéronome, chapitre 26 et au verset 19, où il est écrit ce qui suit, « Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. » Israël était destiné, dans les plans de Dieu, à dominer sur toutes les nations. Alors on ne s'étonne plus qu'il soit persécuté comme il l'est, hein, parce que le diable, lui, connaît aussi les plans de Dieu, hein, si les chrétiens ne les connaissent pas, la plupart du temps. Alors il est écrit, oui, la domination sur toutes les nations qu'il a créées, et puis une domination en gloire, en renom et en magnificence. Afin que tu sois un peuple pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Et nous savons qu'Israël est complètement passé à côté de sa vocation première pour occuper la dernière place. Alors là encore, nous pourrions lire plusieurs textes. Nous revenons, n'est-ce pas, en Deutéronome 28. Là, 15, n'est-ce pas, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions, hein, qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, etc. Verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, oui, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Puis ensuite, Dieu le fait savoir à Israël et qu'il le disperserait parmi toutes les nations, n'est-ce pas ? Et nous reprenons la lecture, par exemple, au verset 66e, parce que nous n'avons pas le temps de lire tout ce chapitre 28, ça prendrait trop de temps. Verset 64, plutôt. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Il y a des Juifs partout dans le monde. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre parmi ces nations. Tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. C'est tout à fait, si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé des persécutions d'Israël depuis la naissance de l'Église, à partir du moment où Israël a rejeté le Christ jusqu'à nos jours, en commençant avec Titus, jusqu'à Hitler. J'aurais pu vous donner là tout un classement, mais je n'ai pas le temps. Alors nous sommes obligés de passer. En tout cas, tout ce qui a été annoncé pour Israël dans ces textes-là s'est réalisé absolument à la lettre. Pourquoi ? Parce qu'Israël avait désobéi à la voix de l'Éternel. Mais attention, Israël est un prototype du chrétien. Israël est un prototype de l'Église. C'est-à-dire que si nous n'obéissons pas, nous aussi, à la voix de l'Éternel notre Dieu, nous risquons un chemin comme celui d'Israël, comme un chemin de difficulté, un chemin de souffrance. Ta vie sera comme en suspens devant toi, c'est Dieu qui parle. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras même de ton existence. Oh, que de fois Israël en était arrivé là dans le passé, dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là, etc. Alors, il faut savoir ces choses. Israël a manqué à sa vocation. Attention que nous ne manquions, nous aussi, à notre vocation. Et quelle est-elle, notre vocation ? Oh, Ésaïe 49, verset 6, Dieu avait dit d'Israël qu'il l'avait choisi pour être la lumière des nations. Et pour porter le salut jusqu'aux extrémités du monde. Israël a manqué à cela. Alors, Dieu a suscité l'Église, une parenthèse, justement, dans ce temps des nations. Une parenthèse qui va s'achever, bien entendu, avec l'enlèvement. L'ère chrétienne prendra fin à ce moment-là. Alors, l'Église a mission, elle a vocation de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Vous l'avez, cette vocation-là. Pas Alain Chouaquier seulement qui court le monde, mais vous aussi, parce que vous habitez à une extrémité du monde, le Québec. Comme moi, Paris, c'est aussi une extrémité de la terre. Et quand je vais à droite, à gauche, je prêche l'Évangile pour répondre à cet appel que Dieu m'a adressé, m'ayant fait la grâce de pouvoir porter aux hommes le plus grand, le plus extraordinaire, le plus merveilleux de tous les messages, le message de l'Évangile. Quelle grâce ! Vous avez aussi mission de porter l'Évangile autour de vous, en même temps que plus loin. Un des signes des temps en Matthieu 24, c'est que précisément l'Évangile soit porté jusqu'aux extrémités du monde. Alors, dit Jésus, viendra la fin. Et l'Évangile n'a pas encore atteint les extrémités du monde. Il y a bien des peuples qui ont besoin d'entendre Aujourd'hui, l'Évangile, les Québécois entendent l'Évangile par la télévision, par la radio. Quel privilège. Les Français, la télévision, non, on ne peut pas, on n'a pas accès à la télévision. Enfin, c'est excessivement cher, ça coûterait au moins 3-4 fois ce que vous payez ici. J'ai fait mon petit calcul. Déjà, la radio, moi je tiens une émission à la radio, à 5 heures du matin, elle me coûte pour 15 minutes 1 000 $. Alors, on n'a pas accès aux médias. C'est absolument épouvantable en France. Mais on essaie quand même d'annoncer l'Évangile. Heureusement qu'il y a d'autres radios moins chères, les radios libres, dont l'impact est très localisé, qui ne va pas très loin. On atteint juste quelques milliers de populations. Alors, en tenant en France, moi-même, une 30aine d'émissions par semaine, j'essaie de toucher, en tout cas, les Français dans leur ensemble, ce qui n'est pas encore tout à fait réalisé. En tout cas, un des signes des temps, c'est que l'Évangile atteigne les extrémités du monde, et quand cela sera fait, alors viendra la fin. Il nous faut donc vraiment nous engager, qui que nous soyons, pour que l'Évangile puisse atteindre les extrémités du monde. Alors j'en étais à ce temps des nations, qui prendra fin avec le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, et qui a commencé à la déportation vers Babylone. Dans ce temps des nations, en quelque 590, disons, l'an 600 avant Jésus-Christ. Alors ce temps des nations dure, il se prolonge encore. Mais peut-être avez-vous envie de me dire, c'est fini, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds, certainement qu'il l'est. Parce qu'il y a encore la mosquée d'Omar. Il y a encore une autre mosquée, celle de El-Aqsa. Il y a encore des endroits qui sont réellement foulés aux pieds par les nations. Et réellement, Jérusalem ne retrouvera, si vous voulez, ses prérogatives premières qu'avec le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, en même temps qu'il retrouvera sa mission première, celle de porter alors l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde pendant le millénium. Oui, Jésus a dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Mais ce retour en gloire aura lieu après un temps de jugement, de douleur, d'angoisse, de souffrance comme jamais le monde n'en a connu. Et même comme jamais Israël n'en a connu. Et pourtant Israël a connu tellement, tellement de souffrances. Écoutez, je ne sais si j'ai ici, oui, j'ai ici un bref historique de la souffrance d'Israël à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Nous savons que Dieu avait dit à Israël, à Abraham, donc je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et cette parole de l'Éternel s'est réalisée à la lettre. Et le destin des nations a toujours résulté de leurs attitudes vis-à-vis d'Israël. Le premier pays qui a été réellement jugé, ça a été l'Égypte. L'Égypte, parce que le Pharaon avait maudit Israël. Alors l'Égypte avait été atteinte par ses 10 plaies, vous vous souvenez ? Le Pharaon, avec toutes ses armées, était passé dans les eaux de la mer Rouge. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Mais plus proche de nous, déjà, Nebuchadnezzar, plutôt d'abord le premier, lorsque les 10 tribus avaient été emmenées captives. Quelques 100 ans avant, justement, Judas et Benjamin, Dieu avait réellement châtié la Syrie. Et quelques 100 années après la déportation des 10 tribus en Assyrie, Ninive, capitale des Assyriens, tombée sous les coups de boutoir des Babyloniens et des Perses et des Mèdes et des Perses. Puis ensuite, Nebuchadnezzar arriva à son tour pour emporter Juda et Benjamin. Quelque temps après, Les Mèdes et les Perses s'emparer de Babylone presque sans coup férir. Je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est à partir de Jésus-Christ en l'an 70, un certain général romain, fils de Vespasien, n'est-ce pas, s'empara de Jérusalem, fit le siège de Jérusalem, et il entama la destruction du peuple juif. 1 million de juifs mourus par les armées de ce Titus. En l'an 115 après Jésus-Christ, les juifs furent chassés de Chypre. En l'an 135 après Jésus-Christ, il y eut un soulèvement avec un faux messie du nom de Bar Corfa. 500 000 juifs furent massacrés dans cette occasion-là par l'empereur romain Hadrien. Au 7e, au 8e et au 9e siècle, oppression dans l'Empire byzantin. En 1096, 12 000 juifs furent assassinés en Rhénanie. Un peu plus tard, des juifs furent massacrés à Jérusalem. Au 12e siècle, il y eut une grande persécution des juifs en Espagne. À la fin du 13e siècle, les juifs furent expulsés d'Angleterre, 370 000. En 1292, 100 000 furent assassinés en Franconie et en Bavière. En 1306, il y eut une expulsion massive des juifs de France. Vous savez, ça n'est pas à notre gloire, hein, au pays des Gaulois. En 1348 et 49, il y eut des pogroms, c'est-à-dire des déchaînements sémites antiracistes à l'endroit des juifs en Europe, parce que nous avions connu une peste qui avait tué en Europe dans ces années-là quelque 20 millions d'Européens. En raison de cela, la faute avait été mise sur les juifs. Tous avaient dit c'est leur faute. Et dans cette occasion, on s'en était pris aux juifs comme par une chasse aux sorcières pour en tuer, vous savez combien, en Europe ? 1 million. 1 million de juifs furent tués à cause de la peste dont ils avaient été responsables selon les Européens. En 1355, persécution des juifs à Tolède. 12 000 juifs furent tués par les Arabes. Un peu plus tard, la même année, expulsion des juifs de la Hongrie et oppression des juifs en Espagne. Au 15e siècle, la communauté juive de Toulouse, en France, hein, la belle ville de Toulouse, toute la communauté juive de Toulouse fut anéantie par les Français. Hein. Une année plus tard, expulsion des juifs d'Autriche. En 1492, expulsion de 180 000 juifs d'Espagne. Justement, à cet égard, il y a peu de temps, le roi d'Espagne, Juan Carlos, s'est rendu, je crois, la semaine juste avant que je quitte la France pour venir ici. Le roi s'était rendu dans une synagogue pour demander pardon. Pour demander pardon aux Juifs. Quand, en 1492, il y eut cette expulsion de 180 000 Juifs d'Espagne. On s'en souvient encore en Espagne. Hein ? Oui, à la fin du 15e siècle, expulsion des Juifs de la Sicile, de la Sardaigne et du Portugal. En 1441, expulsion des Juifs du royaume de Naples, en Italie. Au XVIIe siècle, 100 000 Juifs périrent par des massacres en Pologne. Au XVIIIe siècle, ils furent expulsés de Russie. Au XIXe siècle, toute la communauté juive de Meshed, en Perse, fut obligée de se convertir à l'islam. Oui, etc. Je pourrais continuer, mais je ne veux pas trop prendre trop de temps avec cela. Nous en arrivons à 39-45, extermination de 6 millions de juifs dans les camps nazis, et en particulier par les fours crématoires. Je n'ai pas eu le temps de passer en revue avec vous toutes les fois où Dieu a dû réellement intervenir vis-à-vis de ses peuples pour les maudire, parce que je maudirai ceux qui te maudiront, mais je ferai allusion à ce qui est arrivé à l'Allemagne et qui avait fait passer de vie à trépas quelque 6 millions de juifs. Il en résulta un pays allemand partagé, coupé en deux par un mur, hein, le mur de Berlin, pendant tellement d'années. Et il y a peu de temps, Dieu suscita Gorbatchev, lequel Gorbatchev joua les Cyrus en autorisant les Juifs de rentrer dans leur pays. Ce fut extraordinaire. Et pour récompense, justement, à Gorbatchev, je pense, en même temps qu'aux Russes, les Russes furent délivrés du joug communiste. Ça a été la bénédiction. Ah, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bon, je range ça parce que sinon je vous tiens jusqu'à 2h du matin. Et j'en reviens à mon texte. Dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour traiter de toutes ces choses tellement importantes. Oui, donc, après un temps de jugement, de douleur, d'angoisse, de souffrance sur toutes les nations, mais surtout sur le peuple juif. Et c'est pour vous montrer combien ce peuple a souffert que j'ai rappelé ces choses qui sont vérifiées par l'histoire. Eh bien, tout un temps de jugement, de douleur, d'angoisse, de souffrance sur toutes les nations, mais surtout sur le peuple juif. Et c'est pour vous montrer combien ce peuple a souffert que j'ai rappelé ces choses qui sont vérifiées par l'histoire. Eh bien, toutes ces choses que les Juifs ont souffert et tout ce que les nations ont pu souffrir ne représentent pas grand-chose au-devant de ces temps de détresse vers lesquels le monde est en train de marcher. Et ce, après l'enlèvement des chrétiens, des enfants de Dieu. Voyez-vous, les jugements ne sont pas pour l'Église. Certains me disent, mais vous croyez qu'on va partir avant ? Est-ce que Noé a subi les jugements de l'Éternel ? Il a été sauvé comme par un enlèvement. Il est entré dans l'arche, la porte de l'arche était restée ouverte 7 jours. Personne n'a voulu entrer. Noé est entré avec sa femme, ses enfants, les épouses de ses enfants. Ils ont été sauvés et puis les jugements sont tombés sur une race d'impies qui avait refusé de se repentir. Et pourtant Noé avait prêché plus de 100 ans. Moi, je ne prêche que depuis 40 ans. 41 ans, exactement. Et puis, est-ce que Lot a péri sous ce déluge de feu ? Certainement pas. Or, Lot a été lui aussi prophétiquement annoncé l'Église, n'est-ce pas ? Et les anges l'ont sorti de Sodome, il traînait les pieds, hein. J'espère que vous ne traînerez pas les pieds, hein, quand le Seigneur viendra. Je vous ai expliqué le mot harpazo en grec, qui signifie enlever, hein, qui signifie même enlever de force. Alors on partira, hein. Mais j'ai précisé, ça signifie cela, hein. Je vous ai expliqué la parabole du voleur, hein. Jésus s'étant comparé à un voleur. Et si le maître de la maison savait, là, encore plusieurs n'étaient pas là. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Et nous avons démontré que le voleur, c'est le Seigneur. D'ailleurs, il s'est comparé au voleur. En Apocalypse 3:3, il a dit « Voici, je viendrai comme un voleur ». En Apocalypse 16:15, il a aussi dit cela. Alors, il doit venir voler son Église. Et le terme, c'est littéralement « emmener de force ». Alors, nous partirons de force, mais on n'aura pas besoin de nous forcer. C'est fantastique. On partira. Alors, si le Christ est le voleur... Je répète ces choses pour ceux qui n'étaient pas là. La maison, c'est précisément la maison de ce monde. Il ne vient pas voler la maison, dit la Bible. Il vient juste voler dans cette maison ce qui lui est précieux, son Église, qui est de cette maison, qui est dans cette maison, mais pas de cette maison. Alors si la maison, c'est le monde, c'est une autre parabole du Christ. Le maître de la maison, c'est qui ? C'est le diable. Et nous avons aussi vu par là que, en disant, si le maître de la maison savait... que le Christ n'a pas voulu qu'il sache, le diable, le jour de son retour. Et c'est pourquoi il ne nous en a rien dit. Parce que s'il nous avait donné une date, nous qui sommes tellement bavards, il y a belle lurette que le diable l'aurait su. Ah, le Seigneur est fantastique. « Ce retour en gloire aura lieu après que toutes les nations seront montées contre Jérusalem. Dit Zacharie 12:2, nous l'avons lu tout à l'heure. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. C'est le cas à l'heure qu'il est. Vous savez, nous ne sommes pas loin de l'enlèvement. Hein. Rappelez-vous cela. Le figuier qui pousse des feuilles tendres annonce l'enlèvement. C'est un signe pour nous. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Hein. Franchement, il faut être aveugle pour ne pas prendre conscience que nous sommes en plein dans ces choses. Et aussi pour Judas, dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Les nations ne savent rien dans ces choses. Et aussi pour Judas, dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Les nations ne savent pas comment résoudre ce problème. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Pourquoi Jérusalem et pas Montréal ? On va le dire dans quelques instants. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ô Jérusalem, pendant cette dernière semaine d'année, c'est-à-dire pendant ces 7 ans, il est question de semaine, mais je précisais avant-hier ou le premier soir que le mot hébreu « Shavua » signifie une unité de 7 ou un cycle de 7, et l'on peut tout à fait traduire « Shavua » par 7 ans. Comme par une semaine. Oui, pendant ces 7 années, mais que de problèmes à cause de Jérusalem. Et en particulier, en raison d'un problème religieux, pourquoi ? Parce que l'islam a des prétentions sur Jérusalem. Si vous connaissez le Coran, vous devez le connaître. Il faut le lire. Hein. Vous savez que le prophète Mahomet est monté vers Jésus, dit-il lui-même, à partir de Jérusalem. Il y est monté, hein. Et puis il y est redescendu ensuite. Il n'est pas resté avec Jésus, mais il le dit, voilà pourquoi. Jérusalem est une terre sainte, voilà pourquoi la mosquée d'Omar. Elle a été construite à l'endroit même, paraît-il, d'où le prophète Mahomet est allé voir Jésus au ciel. Alors l'islam a des prétentions sur Jérusalem. Le judaïsme, bien entendu, hein. Jérusalem est véritablement juive avant tout. Et puis le christianisme aussi a des prétentions, un christianisme, j'allais dire, traditionnel, un christianisme que nous qualifierons de chrétienté plutôt, a lui aussi des prétentions sur Jérusalem. Et pourquoi Jérusalem et pas une autre ville au monde ? Parce que cet endroit est précisément le berceau des civilisations judéo-chrétiennes, d'une part. D'autre part, parce que Jérusalem est la ville du grand roi. Hein ? Satan, lui, sait que le Christ devra régner sur la terre à partir de son trône à Jérusalem au jour, justement, de son retour en gloire. Psaume 48, verset 3. Ézéchiel 43, verset 7. Le fils de l'homme, est-il écrit. C'est Dieu qui parle, hein. C'est Dieu qui parle au prophète, fils de l'homme. C'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Alors, vous comprenez pourquoi on se dispute Jérusalem ? Je vous disais tout à l'heure, le premier soir peut-être, pourquoi on se dispute la Palestine ? On se la dispute parce qu'elle est le pays de l'Éternel, avant d'être même le pays d'Israël. Vous vous souvenez de ce texte de Dieu à Moïse, hein, et au peuple d'Israël, dans le livre du Lévitique, au chapitre 21, Dieu a dit à Israël, vous êtes ici chez moi, c'est mon pays. Vous êtes ici comme étranger chez moi. Et c'est d'abord le pays de Dieu avant d'être le pays d'Israël. Et c'est Dieu qui a voulu la Palestine pour être son pays. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il allait envoyer, justement, dans la postérité d'Abraham, le Messie, le salut vient des Juifs. Qu'il viendrait lui-même en Christ, il avait choisi cette terre dans ce but. Et il avait aussi choisi cette terre dans ce but parce qu'il reviendrait justement pour poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alors vous comprenez pourquoi on se dispute ce pays. C'est le pays de l'Éternel, on veut se l'arracher. Et le diable fait tout pour que ce pays soit déchiré. Et nous avons rappelé ce texte d'Ézéchiel 36, où Dieu dit qu'il veut absolument juger ces nations qui se sont partagées la propriété d'Israël, qui est avant tout la sienne. Et maintenant, nous en arrivons à Jérusalem. Ben, elle est la ville du grand roi. Elle est la ville de l'Éternel. Elle est la ville de Dieu. Psaume 48, verset 9. Psaume 87, verset 3. La ville du Seigneur, la ville de Dieu. Et il n'échappe pas du tout à Satan que c'est de Jérusalem que le Seigneur va gouverner le monde tout entier. Peut-être vous l'ai-je déjà dit que les chefs d'État, les ministres n'iront plus à Versailles, à Reykjavik ou à Tokyo pour aller chercher leurs ordres, mais ils iront à Jérusalem vers le chef des chefs, comme dit la Bible, vers le roi des rois, l'Éternel des armées en Jésus-Christ, régnant sur toute la terre. Et nous avons hâte que ces choses se concrétisent, pas vous ? Ah oui. Quand depuis Montréal, depuis Ottawa, on ira chercher les ordres à Jérusalem, alors vous vivrez autre chose, hein ? Ben, vous vivrez, nous on sera partis, mais ceux qui seront sur la terre vivront autre chose.